Je vais vous dire quelque chose de très très original. Je vous souhaite une bonne année. Et surtout, une bonne santé. Pour moi, c'est très important de souhaiter une bonne santé. Alors, je ne sais pas comment vous abordez cette nouvelle année 2025. Moi, je l'aborde dans l'expectative en me disant que je vais me laisser un peu surprendre par ce que le Seigneur va faire cette année, avec les belles choses qu'il va me faire découvrir encore dans sa grâce. Peut-être ce matin, vous êtes dans un état d'esprit de dire « Ouais, 2025, c'est super, j'ai plein de projets, j'ai plein d'idées, de choses à faire, ça va être génial. » Et puis peut-être vous êtes dans un autre état d'esprit et vous vous dites « 2025, encore une année. » Peut-être vous êtes fatigué à l'idée de démarrer cette nouvelle année. Peut-être vous avez un peu peur, peut-être vous êtes un peu inquiet. C'est vrai que le contexte général dans lequel on vit peut nous rendre un peu inquiet, peut faire que aussi on peut être un peu lassé, fatigué. Et ce matin, je voudrais vous inviter à partager les inquiétudes et puis la fatigue d'une personne biblique que nous connaissons bien. Et je vous invite à lire dans le livre de Josué au chapitre 1, ces versets que probablement beaucoup d'entre nous connaissent déjà. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Noun, serviteur de Moïse, « Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Essiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettra ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est ainsi que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre ? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » Alors ce récit, il est un petit peu une sorte de prologue qui va avant que Israël rentre dans la terre promise. Vous vous rappelez, Israël a été esclave en Égypte pendant 400 ans, puis Moïse l'a libéré de l'esclavage, a fait sortir le peuple d'Égypte. Pendant 40 ans ensuite, s'en est suivi une errance dans les déserts, mais ça y est, maintenant, enfin, le moment est arrivé où le peuple va pouvoir entrer en possession de cette terre que Dieu avait promise à son peuple depuis des années et des années. À l'époque, cette terre est bordée par les territoires égyptiens et assyriens. Et elle est habitée par 7 peuples qui sont plus forts les uns que les autres et qui vivent disséminés dans 31 villes fortifiées qui ont chacune leur propre roi. C'était aussi un véritable défi qui attendait une société, la société israélite, qui n'était pas du tout une société guerrière à la base et qui allait devoir affronter des peuples souvent guerriers, pour faire face parfois à des adversaires redoutables, comme par exemple les géants de la race des Réphaïm. Or, ce récit est émaillé d'indices qui vont nous permettre de mieux comprendre comment la conquête de la terre promise va être possible et comment elle va pouvoir se réaliser. Et pour nous, ces indices peuvent aussi se révéler très instructifs parce que nous aussi, nous avons nos défis, nous avons nos terres inconnues à conquérir, Nous avons des obstacles à franchir, des montagnes à franchir et peut-être des géants aussi qui se dressent dans notre vie. Et je suis sûr qu'en ce début d'année, eh bien, les projets, les défis ne manquent pas au sein de nos familles, de nos travails, de nos engagements associatifs et puis bien sûr au sein de notre Église. Et tout cela est à la fois excitant, mais aussi inquiétant. Excitant parce que, eh bien, nous avons besoin de vitalité dans notre vie individuelle et collective, mais nous avons aussi besoin de nous renouveler, d'avoir de nouveaux projets, parce que, eh bien, c'est ce qui nous fait aller de l'avant, c'est ce qui nous transforme, c'est ce qui nous rend vivants, et c'est aussi ce qui transforme ceux qui nous entourent. Mais c'est aussi inquiétant parce que, eh bien, lorsque nous avançons devant de nouvelles choses, eh bien, parfois les adversaires peuvent nous paraître terrifiants, les obstacles nombreux et les forces peuvent parfois nous manquer. Alors, je vous propose de voir dans ce texte trois aspects qui concernent Josué, mais qui peuvent aussi nous concerner dans notre vie quotidienne, des aspects qui peuvent s'appliquer à notre quotidien. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Noun, serviteur de Moïse, « Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour aller dans le pays que j'ai donné aux enfants d'Israël. » Alors, qui est donc Josué qui va avoir la lourde responsabilité de mener le peuple à la conquête de la terre promise? Qui a la lourde tâche d'être le successeur de Moïse? Eh bien, Josué signifie « Dieu sauve ». C'est la version hébraïque du nom Jésus. Il apparaît pour la première fois en Exode 17, dans le combat contre Amalek. Et cette apparition nous montre combien, eh bien, il a un caractère christique, comme on dit, typique. Tandis que Moïse se tenait en haut, sur la montagne, pendant le combat, eh bien, il y avait en bas, dans la plaine, un homme qui était associé au peuple, qu'il conduisait, un homme en qui était l'Esprit et qui combattait, qui dirigeait la bataille de l'Éternel, selon Nombre 27. Josué va aussi faire partie des 12 espions envoyés par Moïse pour aller explorer la terre promise. Vous vous en souvenez, Eric nous a fait un message il n'y a pas très longtemps de ça encore, et Josué sera le seul avec le Caleb à encourager le peuple à aller prendre possession du pays, malgré tous les géants et toutes les obstacles qui pouvaient apparaître, mais les 10 autres espions ont dit non, c'est trop difficile pour nous, on n'y arrivera pas, et finalement le peuple a renoncé, et vous savez qu'il va s'en suivre 40 ans d'errance dans le désert pour le peuple d'Israël. Mais on voit, en prenant cette position, que Josué s'avère vraiment être un leader indiscutable, un homme qui est rempli d'esprit et de foi. D'autres versets aussi nous montrent que Josué est aussi quelqu'un qui a grandi à l'école de Moïse et surtout à l'école de Dieu. Quand Moïse, par exemple, est monté sur la montagne pour aller recevoir les tables de la loi, eh bien Josué l'a accompagné jusqu'à un certain niveau où il l'a laissé à un camp de base pour le laisser continuer tout seul. Quand Moïse venait s'entretenir avec Dieu dans la tente, dans le tabernacle avec Dieu, eh bien Josué s'y trouvait. Alors peut-être qu'il n'était pas dans la même pièce que Dieu et Moïse, mais peut-être qu'il a pu entendre, qui sait, des bribes de conversation entre eux. En tout cas, quand Moïse quittait la tente, eh bien Josué, lui, est demeuré. Alors après avoir vu Moïse vivre, avoir une relation avec Dieu, après avoir eu certainement de nombreuses discussions avec Moïse, après s'être laissé imprégner de la présence de Dieu, peut-être même indirecte simplement, eh bien Josué a montré sa fidélité et son engagement en combattant pour le peuple et en étant rempli de foi pour conquérir la terre promise, puisqu'il y a eu déjà des combats avant de rentrer dans la terre promise. Alors, prêt, eh bien c'est Dieu lui-même qui le choisit pour mener le peuple dans cette conquête et qui l'encourage à continuer et c'est Dieu lui-même qui continue de le former directement à cette tâche qui l'attend, cette lourde tâche qui lui reste dans ce temps qui lui reste à vivre. Et ceci nous montre l'importance de la transmission. Transmission intergénérationnelle, par exemple, au sein de nos familles ou bien dans l'Église. Transmission d'expériences ou partage d'expériences entre membres, par exemple, d'une même association ou bien entre collègues de travail. Si Josué a réussi à conduire le peuple en terre promise, eh bien, c'est parce que Moïse et surtout Dieu l'avaient préparé à cette mission bien longtemps avant. Et si nous voulons réussir à conquérir de nouveaux territoires dans nos vies, si nous voulons relever de nouveaux défis ou vaincre des adversaires redoutables, il nous faut d'abord nous laisser former par Dieu pour être prêts au bon moment. Nous avons la responsabilité de nous mettre à l'écoute de Dieu pour apprendre toujours plus de lui, tout en essayant de former, de transmettre des connaissances et des expériences à d'autres et les laisser être interpellés par notre relation avec Dieu et notre vie de foi pour que eux aussi, ils puissent réussir dans leur propre vie à renverser des obstacles et relever les plus beaux défis. Deuxième point, fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le, jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu réussiras. La réussite dans la vie est quelque chose de fondamental, n'est-ce pas, chez l'être humain? Réussir, montrer et se montrer à soi-même que notre vie a valu le coup d'être vécue, que nous sommes reconnus, que nous sommes aimés, heureux, tout cela est fondamental pour nous. Et les livres, les reportages sur la façon de réussir dans la vie ne cessent de fleurir et ne cessent de se multiplier dans notre société. Nous sommes toujours à l'affût d'une nouvelle recette qui nous donnera la clé de la réussite. La bonne clé qui nous ouvrira la porte du bonheur. Josué, lui, il a de la chance. Il a de la chance parce que, eh bien, Dieu lui livre sur un plateau la clé de voûte de la réussite. L'élément clé qui va lui permettre de réussir à conquérir la terre promise, cette clé, eh bien, c'est la méditation de la parole de Dieu et sa mise en application. C'est une invitation à la réussite qui est récurrente dans l'Ancien Testament. Par exemple, on se souvient du psaume 1. « Heureux l'homme qui prend plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Tout ce qu'il fait lui réussit. » Comme un écho à notre texte. Mais pour Josué, comme pour nous, eh bien, la réussite ne dépend pas d'une pratique de lecture magique quelque part. Non, ce n'est pas dans le fait proprement dit de lire la parole, voire de la connaître par cœur que se trouve la réussite. Il s'agit de la méditer. Méditer la parole, eh bien, c'est permettre au Saint-Esprit de prendre la parole vivante et de l'appliquer comme parole vivante à notre être intérieur. Ainsi, Dieu nous parle et s'attend à ce que nous lui répondions. Josué ne devait pas avoir une approche légaliste de la loi, en apprenant toutes les lois par cœur, comme je l'ai dit, pour les appliquer ensuite, non. Il était appelé à essayer de comprendre le sens de ces lois. Il devait essayer de comprendre quelles avaient été les intentions de Dieu quand il avait écrit ces lois, quand il les avait données. Certes, Dieu encourage Josué à agir fidèlement dans tout ce que Moïse a prescrit avec la loi. Mais face à des situations nouvelles qui pourraient se présenter, ou bien dans des décisions délicates à prendre, ce n'est que si Josué avait médité la parole de Dieu qu'il pourrait mieux agir ensuite selon l'esprit de la loi. que Dieu avait donné à son peuple. Réfléchir à ce que Dieu a dit sur ses intentions, sur le sens qu'il souhaite donner à tel ou tel commandement, eh bien, cela va donner de la perspicacité à Josué, selon certaines traductions, comme la traduction Chouraki, qui préfère traduire par perspicacité là où d'autres traduisent par réussite. Et justement, pour aller conquérir la terre promise, eh bien, Josué va en avoir besoin de la perspicacité. La perspicacité, c'est avoir un esprit pénétrant et apercevoir ce que la plupart des gens ne voient pas. Alors, on nous dit souvent que pour être de bons chrétiens, eh bien, il nous faut lire régulièrement notre Bible et la méditer. Et quand nous ne le faisons pas, eh bien, nous pouvons nous sentir coupables. Mais lire la Bible et la méditer, ce n'est pas donc un moyen magique d'attirer sur nous les bonnes grâces de Dieu. Mais lire et méditer la Bible, c'est pour nous comme une véritable nourriture spirituelle. Lire la Bible, c'est la nourriture de notre âme et associée à la prière, qui est la respiration de notre âme. Ces deux aspects sont vraiment fondamentaux pour la bonne santé de notre âme. Si nous oublions de manger ou si nous oublions de respirer, notre âme va dépérir et nous allons être en mauvaise santé spirituelle. Alors, il était important de méditer pour Josué cette parole de Dieu, cette loi, et pour nous aussi, c'est très important de continuer à le faire. Méditer sur ce que Dieu nous dit, réfléchir au sens de ses paroles, essayer de comprendre les intentions, ses intentions avec l'aide du Saint-Esprit, est fondamental pour nous quand nous avons un défi à relever. La Bible n'est pas un livre de recettes, comme on peut trouver dans le commerce, dans certains livres. Ça n'est pas un livre de recettes qui va nous dire comment réagir dans telle ou telle situation. Non. Notre vie est à des millénaires des situations que pouvaient vivre les personnages bibliques. Mais, en tout cas dans beaucoup de situations. Mais la Bible, au fur et à mesure que nous allons la méditer, eh bien, elle va nous façonner de l'intérieur. Elle va nous permettre de développer une intelligence, des émotions et une volonté qui nous animeront au fil de notre conquête et qui vont nous aider à être perspicaces, à réagir, à prévenir, à agir selon le cœur de Dieu. Encore un mot. Josué ne devait s'écarter ni à droite ni à gauche de la loi. Cela signifie qu'il ne devait pas faire autre chose que ce que la loi disait, qu'il ne devait pas faire quelque chose qu'elle défendait ou encore qu'il était appelé à ne pas faire de compromis en ne l'accomplissant qu'à moitié. La tentation de Josué aurait pu être d'écouter les paroles humaines autour de lui et de délaisser la loi. Certains après lui le feront parmi les futurs rois d'Israël. On pourrait être tenté ainsi de minimiser la parole de Dieu, de l'oublier. Mais en fait, Josué pouvait très bien écouter les paroles humaines autour de lui et les prendre en compte tant qu'elles étaient en accord avec l'esprit de la loi. Encore fallait-il avoir médité justement cette loi pour en comprendre l'esprit. Et nous aussi, face aux défis que nous avons, examinons toutes choses à la lumière de la parole de Dieu, y compris les paroles que nous pouvons recevoir autour de nous, les paroles humaines, les conseils que nous pouvons recevoir pour être perspicaces et pour réussir. Et puis, troisième point, « Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Nul ne tiendra devant toi. Tant que tu vivras, je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas. Je ne t'abandonnerai pas. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à Josué, à leur père, pardon, de leur donner. » Voici donc Josué face au plus grand défi de sa vie. Faire entrer un peuple innombrable, composé de centaines de milliers de personnes, dans une terre inconnue, et l'amener en plus à la victoire en conquérant terre par terre un territoire promis par Dieu. Dieu vient de réaffirmer à Josué qu'il donne le pays de Canaan à Israël. C'est une promesse ferme, une promesse divine. Mais maintenant, il faut s'emparer de ces territoires. Et tout comme nous avons reçu l'affirmation de notre vie éternelle, de notre salut en Jésus-Christ, mais maintenant, il nous faut nous en emparer. Nous sommes saints, rachetés, enfants de Dieu de par notre statut, mais maintenant, il nous faut vivre selon ce statut, travailler à notre salut, comme dirait l'apôtre Paul. Et cela demande toute une conquête intérieure et extérieure de notre part. Comme nous l'avons dit au début, la mission que reçoit Josué peut l'inquiéter, stresser, elle peut l'angoisser. En effet, Josué est âgé. Aura-t-il la force d'accomplir sa tâche? Et puis Moïse n'est plus là. Il n'est plus là pour diriger le peuple, ou il n'est même plus là pour, comme en retrait, pour lui donner des conseils si besoin. Non, il est seul. Saura-t-il être le leader qu'il faut pour se faire respecter et pour encourager le peuple à obéir aux instructions de Dieu? Certes, Josué est le seul avec Caleb à avoir visité la terre promise et à la connaître. Mais depuis qu'il l'a fait, peut-être beaucoup de choses ont changé sur cette terre inconnue. Peut-être que les peuples autochtones se sont encore plus développés. Peut-être que les villes fortifiées se sont multipliées. Peut-être même que les géants eux-mêmes de la race des Réphaïm se sont agrandis, se sont multipliés aussi. Tout ceci fait que, avant de partir à la conquête, il aurait de quoi stresser, de quoi avoir peur, de quoi peut-être même être quelque part déjà un peu en défaite intérieure. Peut-être que c'était l'état d'esprit dans lequel était Josué à ce moment-là de notre texte. Et Dieu s'emploie ici aussi à rassurer son serviteur, en l'exhortant par trois fois dans ce passage, « Fortifie-toi et prends courage ». Mais comment se fortifier? Comment trouver du courage quand on en manque? Dieu lui fait la plus belle des promesses, une promesse indéfectible comme chacune de celles que Dieu peut nous faire. Il lui promet d'être là. Il lui promet sa présence. Il lui promet ses soins constants. N'y a-t-il pas une plus belle promesse que celle-ci? Partout où Josué ira, quel que soit le défi, quelle que soit la difficulté, l'adversaire qu'il va rencontrer, Dieu lui promet qu'il sera avec lui, qu'il ne le laissera jamais sans secours. Et dans nos vies, parfois, ce que nous vivons aussi peut nous laisser sans force. Par exemple, la maladie peut nous laisser sans force. Elle peut nous dévaster intérieurement. La perte d'un être cher aussi peut nous laisser sans force. Il nous faut parfois des mois, voire même des fois des années, pour arriver à nous en remettre et arriver à continuer à avancer sur le chemin de la vie. Accompagner nos enfants ou aussi nos parents plus âgés peut aussi parfois nous laisser sans force, parce que cela est très épuisant par moments. Et les changements constants dans nos vies familiales ou au sein de notre travail peuvent aussi nous bouleverser, peuvent nous décourager ou nous paralyser. Ces moments dans nos vies où nous nous sentons vidés de nos forces, découragés par l'ampleur de la tâche, paralysés par l'enjeu, correspondent très souvent à des moments où notre regard n'est pas dirigé au bon endroit. Notre regard est dirigé en fait vers nous, comme nos selfies. Il n'est pas dirigé vers Dieu et vers les autres. Sans nous en rendre compte, nous analysons la situation en l'évaluant d'après nos propres forces, selon nos propres critères. Mais nous sommes tellement fragiles, tellement limités, que bien des défis à relever, bien des territoires dans nos vies sont trop difficiles à conquérir tant que nous comptons sur nous-mêmes. C'est à la foi de Josué que Dieu s'adresse. Il l'invite à prendre de l'assurance, non en lui-même, parce que la tâche est bien trop lourde finalement pour lui tout seul. Mais Dieu l'invite à prendre de l'assurance en lui. Il l'invite à se saisir de ses promesses et à lui faire confiance. Il l'invite à lâcher prise et à se remettre entre les mains de celui qui peut tout. Et Dieu, dans nos vies, en ce début d'année, nous invite à la même démarche. Il nous redit les mêmes promesses qu'à Josué, mais d'une manière renouvelée. Par exemple, dans le Nouveau Testament, pensons à cette affirmation de Jésus, à ses disciples avant de les quitter. « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Pensons aussi à l'apôtre Paul qui nous rappelle qu'en Romains 8, eh bien rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. Non, rien de rien. Rien de ce que nous pouvons imaginer, de ce qui peut nous effrayer, ne peut nous séparer de l'amour de Dieu dans nos vies. C'est quelque chose qui est fait. Dieu nous aime et il ne nous lâchera jamais. Quoi qu'il se passe, Dieu est là. Il reste fidèle. Il ne nous abandonne pas. Il est auprès de nous, tous les jours, partout, où que nous sommes, dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous vivons, il est là. Mais c'est vrai. Vous me direz, rares sont les fois où Dieu nous manifeste sa présence de façon tangible. Souvent, nous avons l'impression de devoir nous débrouiller par nous-mêmes. Que nous sommes tout seuls, que Dieu nous a oubliés, et qu'il est sourd ou qu'il est absent. Et nous allons alors la tentation de prendre les choses en main pour qu'elles avancent. Même si, quelque part, nous ne nous sentons pas à la hauteur. Ou parfois, peut-être même, quand nous nous sentons trop à la hauteur. Dieu nous manifeste sa présence d'une façon bien différente de nous. Tout d'abord, eh bien, il nous a fait don de son Saint-Esprit, qui est venu habiter en nous, à notre conversion. Et là, il nous a laissé aussi sa parole, comme nous l'avons vu, qu'il nous invite à méditer jour et nuit. Il nous a aussi introduit dans sa famille, qui est l'Église du Christ. Et il nous manifeste aussi sa présence par le biais ainsi de nos frères et de nos sœurs. Et le Père parachève cette présence, ce soin qu'il a pour nous en intervenant régulièrement en notre faveur. Mais encore faut-il que notre regard se détache de nous-mêmes pour se promener autour de nous et voir l'action de Dieu dans nos vies ou dans celles de ceux qui nous entourent. Et quelque part, c'est un petit peu ce que nous avons fait la semaine dernière, au culte de dimanche dernier, quand Eric nous a encouragés à remercier, à avoir cet esprit de reconnaissance. Ainsi, devant tous les projets, devant tous les défis de nos vies et de cette année qui arrive, devant les territoires inconnus peut-être qui sont devant nous, ou dans les territoires peut-être même intérieurs que nous avons à conquérir encore, eh bien, nous avons le choix. Ou bien nous pouvons choisir de les relever, de les affronter avec nos propres forces, mais nous risquons de subir l'échec. Ou bien nous pouvons choisir de tourner notre regard vers Jésus, vers le Père et vers le Saint-Esprit. Choisir de nous emparer par la foi des promesses de Dieu, de nous décharger sur lui de tous nos soucis parce que lui-même prend soin de nous. De ne pas nous inquiéter du lendemain parce que le lendemain prendra soin de lui-même. Faire confiance à Dieu, c'est avoir cette attente assurée et ferme des choses qui doivent se produire et que nous ne voyons pas encore. Par exemple, cette terre inconnue qui nous est promise. Faire confiance à Dieu, c'est croire que les choses qu'on ne voit pas, encore par la vue, par nos cinq sens, vont se produire. Ce défi va être gagné. Ce projet va aboutir, cet obstacle va être franchi, cette montagne va être renversée et ce géant va être abattu. Ce territoire va être conquis parce que Dieu est là avec nous. Peut-être ça ne se fera pas comme nous pensons, mais en tout état de cause, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit, Dieu est là avec nous. Alors équipés de la parole de Dieu, formés par Dieu, avançons-nous par la foi dans cette nouvelle année. Reprenons notre route, fortifiés et encouragés par la présence d'un Dieu qui a décidé de ne jamais nous abandonner, de ne jamais nous laisser sans secours. Amen.